Bonsoir. Vous écoutez D'assonances en dissonances, une émission consacrée à la poésie contemporaine, réalisée par Béatrice Maché. Ce soir, je suis en compagnie de Roseline Sibylle, poète, mais bien plus, et nous allons le découvrir au cours de cet entretien. Roseline, bonsoir.
Bonsoir.
Je suis ravie de m'entretenir avec vous et de vous présenter à nos auditeurs parce que ça fait 2 ans peut-être que je pense déjà à vous pour vous inviter. Je dirais succinctement que vous êtes l'auteur d'une œuvre riche, de plus de 30 livres et livres d'artistes avec divers éditeurs, L'Aïe des ours, Voix d'encre, Chant social, Thé et tête, les éditions La Porte, Les Monteil, ou encore les éditions Henri, ou bien les éditions Dufraux, etc., etc. Vous êtes né à Salon de Provence, et vous résidez toujours dans cette région. Vous avez eu une formation de géographe. Vous avez été bibliothécaire pendant une 20aine d'années, et puis vous avez enseigné à l'université d'Aix, comme l'université d'Avignon, et vous êtes poète, écrivain de voyage, traductrice, et notamment traductrice d'auteurs indiens de l'Inde, en Asie donc, des populations qui, puisque colonisées par les Anglais, s'expriment aussi en anglais, donc vous traduisez à partir de l'anglais vers le français. Mais vous êtes aussi plasticienne à vos heures, et donc nous allons développer et approfondir tout cela. Pour compléter le portrait, voici ce que Angèle Paoli, poète elle-même, écrit de vous sur Terre de Femmes. Alors, ce n'est pas la première fois que je cite Terre de Femmes. J'encourage de nouveau les auditeurs à aller visiter ce site, comme je encourage aussi nos auditeurs à aller visiter le site de Roseline Sibylle, http://www.roseline avec un Y, donc Roseline Sibylle. 2LE.fr. Alors, on revient à Angèle. Angèle Paoli dit ceci. Traduite en plusieurs langues, dont le coréen, la poésie de Roseline Sibylle porte la trace des menues efflorescences de la nature. Sensible à la vie secrète qui murmure sous la langue et sous la terre, la poésie de Roseline Sibylle est poésie naturelle, fluide, maternante et matricielle. Elle vit du froissement de la lumière, du chatoiement des formes et des couleurs, toutes choses propres à insuffler la vie, à générer l'élan vital nécessaire à la réconciliation de l'homme avec lui-même et avec le monde déchiré qui est le sien. L'acuité du regard de la poète nourrit un lyrisme mesuré, pleinement assumé et généreux. Pour commencer l'entretien, Roseline, revenons aux années 50. Puisque vous êtes née en 1953, à quoi ressemblait votre vie à cette époque? Est-ce que l'accent était déjà mis sur la lecture ou sur les études?
J'ai grandi en pleine campagne, sans la télévision. Mon univers, c'était vraiment un univers de nature vaste, multiple. Je pouvais être dehors en toute saison avec les arbres, les ruisseaux, toute une vie d'enfant comblée par la nature. Et par ailleurs, j'ai beaucoup, beaucoup aimé lire. Alors, je lisais tout ce que je pouvais. Finalement, ça a été toujours les deux axes de ma vie, la lecture, la littérature et la nature.
Vous êtes poète, mais vous avez choisi de suivre une formation de géographe. Est-ce que vous aviez une fascination pour les cartes quand vous ouvriez les livres?
J'ai beaucoup aimé l'histoire-géographie pendant mes études et c'est mon prof d'histoire-géo en terminale qui m'a suggéré de faire des études de géographie. À l'époque, on faisait géographie, aménagement du territoire et ce sont des études qui m'ont totalement passionnée et qui m'ont permis aussi de faire ma maîtrise en Pologne. À l'époque, c'était avant Solidarność et ça a été très très passionnant d'aller découvrir ce monde socialiste très fermé, mais en y restant plusieurs mois avec des entrées grâce à nos professeurs et les domaines d'études qu'on avait. Les études m'ont passionnée Mais le travail qui m'attendait après était un travail dans l'aménagement du territoire. Et ça, ce n'était pas ce qui m'appelait. Donc j'ai refait des études pour devenir bibliothécaire, pour donc honorer l'autre versant de mes appels. Et j'ai été ensuite bibliothécaire pendant 20 ans.
Donc, vous glissez de la géographie à la littérature. Vous avez fait ces études à Aix-en-Provence, peut-être, la formation de bibliothécaire, les métiers du livre, c'est ça?
Oui, c'était la formation de formateur en écriture et c'était un DU. Donc, c'était à l'Université d'Aix-Marseille.
Et c'est à ce moment-là que vous avez décidé d'habiter poétiquement le monde, à moins que, déjà enfant, dans ce milieu luxuriant de la nature, vous étiez déjà en train de vivre poétiquement?
Oui, c'est sûr que je n'ai pas décidé d'habiter poétiquement le monde, ça s'est fait. J'ai souvenir d'une réflexion de mes parents. Nous étions allés nous promener en famille à la Fontaine de Vaucluse.
Alors Fontaine Vaucluse, lieu de prédilection de René Char.
La rivière est fabuleusement belle, avec des verts émeraudes. Et au retour, je m'étais attardée, accroupie au bord de l'eau, et mes parents sont venus me chercher et m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et j'ai dit « Je chante pour l'eau. » Et j'avais 4 ans.
Oui, les mots d'enfant, c'est ravissant et rafraîchissant. Roselyne, j'aimerais maintenant que vous nous lisiez quelques poèmes pour que les auditeurs entendent ce qu'Angèle Paoli a qualifié de lyrisme mesuré ou de poésie maternante.
Alors je vais vous lire 3 poèmes extraits du recueil qui s'appelle « Lisière des saisons » qui est paru aux éditions Moire en 2017. Tu as lancé ton filet et ton drapeau suit le vent. La vie claque dans tes haubans. Écoute le vol des oiseaux, la couleur sous tes paupières. Rien n'est jamais immobile. Un papillon le sait et le blé au bord des moissons. Emporte la lumière un peu dans chaque main. Appuie ton dos dans les senteurs cuivrées, le silence spiralé du temps. Laisse monter l'aurore sous tes paupières. Les doigts du passé se fanent doucement. Le ciel t'a bâti un toit nouveau. Les oiseaux y dessinent leurs boucles vermillons. À la rose des vents je demande, à la roue des saisons, au battement d'ailes qui embrasse l'espace. J'arrache du froid le calme de la neige, je le déploie pour le repos. Dans le silence immense, nous saurons peut-être nous réinventer. Je saisis la pétillance des rires, l'élan des sources, des enfants, des bourgeons. Si les mots renaissent au matin, nous pourrons peut-être marcher vers demain.
Merci beaucoup, Roselyne. Il y a dans les mots que j'ai entendus et votre façon de lire aussi, un grand calme et comme si les mots pouvaient apporter ou amener vers une forme de guérison ou d'apaisement. Même si, par ailleurs, et dans d'autres livres, et sans doute on l'entendra aussi plus tard, les thèmes abordés peuvent révéler la souffrance et les épreuves. Alors, à ces 3 extraits que vous avez lus, j'aimerais ajouter un autre versant qui, selon moi, a valeur d'autoportrait. Le voici. La tendresse me racine en terre de printemps. Mes bras déploient des branches vives. Ma main se tend pour recueillir une graine envolée. S'y pose un souffle de bouquet. Le rire des oiseaux, le rêve des nuées. Je m'en couvre en caresses bleues et danse alors avec les oiseaux. D'où vous vient cette tendresse, Roselyne Sibylle? Est-ce qu'elle monte en vous grâce à une connexion particulière avec la terre, avec les éléments? Ce que vous décrivez dans le poème pour moi ressemble à une forme de rituel, à une cérémonie. Et y a-t-il dans votre expérience une dimension spirituelle à cette vie en poésie ?
La nature de nos pays tempérés est pour moi un chez-soi. Il y a tellement de beauté, tellement de subtilité, tellement de variété quand on regarde de près que c'est comme des amis. Les fleurs sont des amis, les graminées sont des amis, les nuages. Et autant la nature peut être violente, on le sait, même ravageuse, autant quand elle est calme, je m'en couvre en caresses bleues. Ce petit poème que vous avez lu est très autobiographique. C'est un poème de mes promenades. Alors non, pas de rituel spécialement, si ce n'est honorer ce monde qui nous entoure, incroyablement riche et simple à la fois. Une dimension spirituelle, tout dépend de ce qu'on appelle spirituel, mais c'est, oui, être relié au monde.
J'ai sélectionné un autre passage, extrait d'un livre dont le titre est « Ombre monde ». C'est un recueil paru aux éditions Moire, écrit alors que vous étiez au chevet de votre père, victime d'un accident vasculaire cérébral. Père qui est décédé 14 mois après l'accident, si je ne dis pas de bêtises. Alors voilà le poème.
Sur les étagères les plus nues, je rangerai des pierres brutes. J'empilerai les minces et les irrégulières. Avec des blocs, je marquerai l'emplacement des fenêtres. Le vide s'adaptera aux fissures. N'aie pas peur, j'ouvrirai un ciel dans le plafond. Les nuages oseront le traverser. Avec les galets perdus, je créerai des cercles. J'organiserai le chaos. On recommencera à croire au chemin. On lèvera la tête vers la lune et la neige. N'aie pas peur, on recoudra les cailloux, même si tout est flou. On inventera des marches de plus en plus solides. On repoussera les parois du trou noir. Nos pas broderont des spirales. N'aie pas peur, je me tiens avec toi. Il nous faut croire encore dans l'indéfini.
Il y a cette formule d'apaisement, n'aie pas peur. À qui s'adresse-t-elle ? À un double ? À un autre vous-même ? Bien sûr à votre père, mais au fil de l'écrit, est-ce que ce n'aie pas peur n'est-il pas le symbole de ce qui relie de cœur à cœur les êtres humains ?
Oui, on peut dire ça. Ce n'aie pas peur, c'est un mantra, de poésie.
Le poème lu par Roselyne est un extrait du livre intitulé « Ombre monde » paru aux éditions Moire en 2014. Je mets cet extrait que vous venez de lire en parallèle avec un autre extrait et le livre cette fois est intitulé « Versant », un ouvrage paru en 2005 et vous écrivez construire en briques d'eau des parois de vent, habiter le souffle d'une demeure océane. Dors ma peur, dors, je te berce. De nouveau, la peur, comme pour l'endormir. Est-ce à cause de votre lucidité, de votre conscience, des dangers et des duretés de la vie ?
La peur n'est pas une dominante de mes poèmes, mais c'est une façon de marquer la conscience, la lumière rouge qui s'éclaire. Vivre avec sa peur, en prendre soin, c'est aussi une composante des humains.
Une autre question qui m'est venue en lisant un petit peu par-ci par-là vos ouvrages, y a-t-il, quand vous écrivez, la conscience d'une adresse, d'une intention, une dédicace, ou bien spontanément le poème, dans sa nécessité, choisit sa formule, à l'image de ce refrain, « N'aie pas peur », mais ça pourrait être toute autre formule. Et je vous cite. « Dans le monde souvent chaotique qui est le nôtre, La poésie est un des angles de respiration auxquels je donne de l'amour et du temps. Vous pourrez faire comme une promenade entre les mots. Ce petit extrait que je viens de lire, c'est l'introduction de votre site, Roselyne. Alors, comme une promenade entre les mots, est-ce que vous faites cette même expérience en lisant d'autres auteurs ? Et est-ce cette promenade, cette balade qui vous intéresse, ou bien c'est la poésie qui suscite aussi des réflexions, disons plus articulées, qui tendent vers un raisonnement ?
Je ne suis pas une poète cérébrale, je suis une poète contemplative. Et une promenade entre les mots, c'est une formulation pour dire que nous sommes des êtres de langue et je ne peux que le relier à ce monde qui nous entoure et dans lequel j'aime marcher, observer, ressentir. J'aimerais effectivement, quand j'offre un poème, quand ce poème est publié, que les gens, c'est comme si je pouvais marcher avec eux, c'est vraiment ce qui m'enchanterait, marcher en silence, accompagné par la beauté qui nous entoure. C'est comme si ma faculté de pouvoir mettre des mots pouvait éclairer plus précisément ce qui pourrait n'être que du vert.
Entre l'invitation et prendre par la main et cheminer.
Alors les poèmes naissent avec leur propre forme qui peut être en je, en tu, en elle, en nous, à l'impératif. Peu importe, c'est vraiment le poème, ce qui a besoin d'être dit, qui décide de la forme. Je ne la choisis pas à l'avance.
J'aimerais maintenant que nous parlions de vos voyages, Roselyne Sibylle. Vous avez voyagé un peu partout dans le monde. Vous avez accompagné 16 séjours dans le désert du Sahara pour l'association L'Ami du Vent. Vous avez également été en résidence en Corée avec la plasticienne Sylvie de Paris, que les auditeurs ont pu entendre sur nos ondes il y a 3 ans. Pourquoi le Sahara ? Pourquoi la Corée ? Pourquoi l'Inde ? Pourquoi tous ces voyages ?
Les voyages, évidemment, parce que cet appel au monde qui fait que j'ai choisi la géographie, donc cette fascination pour notre planète. Le Sahara, ça a été longtemps un très fort désir. Je rêvais du Sahara et puis entre le travail, les enfants, le budget, je ne pouvais pas y aller. À 50 ans, ça a été mon cadeau de tous mes amis rassemblés. Et depuis, j'ai pu faire des séjours dans le Grand Erg oriental en Tunisie, dans le Grand Erg occidental en Algérie, en Mauritanie, au Maroc. Et le désert m'amène ce qu'on ne peut pas trouver ici. Je suis une femme d'arbres et d'eau, mais je trouve dans le désert une immense beauté, une épure, un silence, une profondeur inouïe, et le désert me complète, je dirais. Pourquoi la Corée ? Parce que j'ai eu le bonheur de faire la connaissance d'une très grande peintre coréenne, Bang Hye-ja, qui a été ma très chère amie jusqu'à sa mort, il y a 2 ans. Et j'ai beaucoup travaillé pour une monographie qui a été faite sur son œuvre, et en remerciement, elle m'a offert un voyage en Corée, ce qui a été ma rencontre avec ce pays. Et j'y suis ensuite retournée pour 5 séjours longs, dont 2 résidences d'écriture, la première en 2009 et la seconde en 2011, où j'avais invité Sylvie de Paris. La Corée a été un lieu très important pour moi, la Corée du Sud évidemment, avec cette profonde, ancienne culture. On ne connaît ici de la Corée souvent que Séoul et la civilisation urbaine. J'ai eu le privilège de vivre dans une vallée très reculée, très agricole, très forestière, et j'ai vu une Corée ancienne qui vivait selon des traditions de montagne. Et c'est cette Corée-là à laquelle je me suis attachée beaucoup. Et pourquoi l'Inde? Parce que pendant ma première résidence en Corée en 2009, dans un centre culturel qui a été créé par la plus grande auteure coréenne qui s'appelle Park Hyun-ni, qui est morte en 2008, Park Hyun-ni a réalisé une œuvre monumentale et elle a eu énormément de droits d'auteur. Et elle a souhaité créer un centre culturel pour que les écrivains aient un lieu où ils puissent simplement écrire et pas travailler à côté de l'écriture. Et Bang & Cha m'avait incité à postuler. Et j'ai été effectivement sélectionnée. J'ai pu aller passer un mois et demi dans cette résidence. Et nous étions dans un petit bâtiment en bois. Et dans la chambre en dessous de la mienne, nous étions cinq écrivains dans ce petit bâtiment, il y avait Mridula Koshy, qui est une écrivain indienne. Et nous nous sommes très bien entendus. Ça a été un bonheur de la voir tous les jours, de parler de l'écriture et des processus d'écriture et de tout ce qui nous amenait là. Et quand Mridula est partie, elle m'a dit... au revoir, et peut-être en Inde. Et en fait, elle avait planté la graine de ce désir d'aller en Inde. Et puis, voilà, la vie a fait en sorte que ça puisse se faire. Et j'ai été invitée en 2011, le bureau du livre de l'ambassade de France, à participer à une résidence de traduction dans le sud de l'Inde, où nous étions 8 poètes invités, 4 poètes indiens, de langues différentes et 4 poètes européens. Il y avait un écossais, une du pays de Galles, un suisse allemand et moi. Et nous étions en présence pour traduire nos poèmes. Donc chacun avait envoyé 15 poèmes écrits directement ou déjà traduits en anglais. Et en présence les uns des autres, nous avons chacun traduit 10 poèmes de cet ensemble dans notre propre langue. Il y avait un metteur en scène avec nous. Nous avons organisé une lecture d'une heure et quart pour croiser les voix, croiser les langues d'origine. Et ce spectacle, on peut dire, nous l'avons produit dans un certain nombre de villes en Inde. Et à l'issue de cette résidence, j'avais demandé de rester en résidence d'écriture à Pondichéry. Et là aussi, j'ai été complètement passionnée par cette culture. Les rencontres se tissent et amènent la rencontre suivante avec, pour moi, le bonheur de cette planète qui nous offre autant de possibles.
Vous faites de la traduction à partir de l'anglais. Est-ce que vous écrivez en anglais?
Non, je suis très attachée au français, qui est ma langue. C'est comme si je mettais tout mon soin à cette langue-là. Dans le recueil qui a été publié suite à ma première résidence en Corée, j'avais écrit dans un des poèmes sur l'île de mes mots. Et en fait, c'est ce que je ressens quand je suis en résidence dans un pays étranger. C'est l'île de mes mots et tout autour, c'est un océan de langues que je ne comprends pas ou que je ne maîtrise pas.
Très jolie image. On va revenir un peu à la lecture. J'aimerais que vous lisiez d'autres poèmes, d'autres textes, peut-être écrits lors de ces voyages, justement.
Alors, je vais vous lire donc les quelques poèmes de mon dernier recueil, qui s'appelle « Une libellule sur l'épaule », édité à l'Aïe des ours en 2024. Dans ce recueil, il y a un certain nombre de poèmes que j'ai donc écrits en Corée en 2009, qui était paru dans une édition coréenne, qui était totalement épuisée. Donc j'ai recréé un recueil avec ces poèmes et d'autres. Donc je vais vous lire ceux qui ont une note coréenne. J'ai marché doucement jusqu'au temple. La rivière riait dans la vallée. Si je sais écouter assez longtemps les sèves, je pourrais marcher jusqu'au ciel. Une libellule brune est venue respirer sur mon livre. Tulle de ses ailes en ombre. Les mots, à travers, palpitaient. Je suis revenue du fond du monde, une libellule posée sur mon épaule. Si j'étais une goutte de rosée, je serais exactement au centre de la fleur. L'âpreté de l'histoire s'est enfoncée entre les pierres. La montagne respire doucement. Sur la planète en pleurs, la lune passe sa douce main. Je tourne vers elle mon visage. À tant regarder, on pourrait ne pas cesser de dire. Pourtant, le pinceau qui veut montrer le vent se doit d'être léger.
Merci, merci Roselyne. Dans cette émission, il y a une constante qui est de demander à mon invité de choisir une musique ou une chanson pour le ou la faire découvrir aux auditeurs. Ça peut être quelque chose qui vous accompagne dans l'écriture, ou qui vous stimule, ou qui a une valeur de symbole, etc. Alors, quel serait votre choix et pourquoi ?
Alors, il s'agit de l'Allegro du concerto pour violon et orchestre en mi mineur, opus 64, de Mendelssohn, interprété par Isaac Stern et Ozawa en chef d'orchestre. Pourquoi j'aime ce morceau ? Il me rejoint parce que cette échappée du violon qui retrouve l'orchestre me semble ressembler à ma démarche. Je dis que je suis une ermite sociable. Effectivement, c'est une solitude qui rejoint les autres et qui s'échappe à nouveau et qui rejoint les autres. J'aime vraiment beaucoup la lumière qui s'exprime dans cette musique.
Nous allons donc écouter le concerto pour violon et orchestre de Mendelssohn, un extrait de l'Allegro, qui est le choix musical de la poétesse Roselyne Sibyl, qui est mon invitée ce soir.
Thank you.
Vous venez d'entendre le concerto pour violon de Mendelssohn en mi mineur, opus 64, un extrait, et il s'agissait de l'Allegro avec Isaac Stern au violon. L'orchestre, c'est le Boston Symphony Orchestra et le chef d'orchestre, c'est Seiji Ozawa. Alors, il y a un sujet qui m'est cher, Roselyne, c'est la traduction. Pourquoi avoir choisi de traduire des auteurs indiens qui s'expriment en anglais? Alors là, vous les avez rencontrés, en tout cas certains. Qu'est-ce que la pratique de la traduction vous apporte, et surtout la traduction de cette poésie qui vient de cultures très différentes des occidentales? Quelle forme d'engagement vous ressentez à ce travail de passage entre les langues? Quelle richesse?
Alors, j'ai effectivement traduit des poètes indiens que j'ai rencontrés. J'en ai traduit aussi que je n'ai pas rencontrés parce que petit à petit, et ça s'est noué ainsi, on m'a demandé des traductions. La plupart de ces poèmes traduits sont parus en revue. En France, dans la rubrique Voix du Monde de la revue numérique Terre à Ciel, et en Inde, la revue Pratilipi Asymptote. Ensuite, on m'a demandé de traduire des recueils entièrement. J'en ai traduit 4 pour le moment. La poésie indienne est évidemment multiple, mais ce que j'ai eu la chance de traduire a une note comme un parfum qui n'est vraiment pas en Occident, avec des références qui parfois me sont étrangères. Je cherche à quoi correspond cette image. Et ce que je trouve m'enchante, ça peut être des végétaux ou des habitudes ou des dieux. Et en même temps, il y a souvent un côté malicieux qui parle du quotidien tout en le mêlant à cette très ancienne culture. C'est assez fascinant, c'est déroutant. Ce que je cherche, c'est d'amener en français, de façon la plus juste et la plus élégante, ce que les poètes ont donné en anglais, même si leur langue d'origine n'est pas l'anglais. Mon travail, c'est de rendre en français un poème. Évidemment que ce ne soit pas littéral, que ce soit le plus proche possible et le plus poétique possible, sans non plus me détourner du sens voulu par le poète, ce qui n'est pas une mince affaire. Et je travaille beaucoup. 100 fois sur le métier, je remets l'ouvrage, jusqu'à être le plus proche possible et savoir que je ne pouvais pas faire mieux. Je me fais superviser par une amie anglaise qui est poète aussi et qui a un français extrêmement fin. Je veux être absolument sûre que j'ai choisi l'adjectif le plus proche, le plus juste au niveau du sens, autant que possible. J'essaie de redonner des assonances qui puissent correspondre au plus près à un rythme qui a été donné en anglais. C'est chaque fois une aventure, c'est très passionnant, ça me prend beaucoup de temps et c'est un temps comme un voyage.
Et si vous nous lisiez quelques poèmes traduits ?
Arundhati Subramaniam est née en 1973. C'est une poète indienne qui est écrivaine, critique littéraire, traductrice et journaliste. Et elle écrit en anglais. J'ai connu un chat. J'ai connu un chat avec un minois comme une étoile. J'ai attendu qu'il meure pour que mon cœur souffre un peu moins. Maintenant, les nuits sont plus sombres, ma vie un peu plus facile. Et j'ai réintégré ma tribu d'origine, nos greniers regorgeant de mots et de manque d'amour.
Et en version originale, ça donne. I knew a cat. I knew a cat with a face like a star. I waited for her to die, so my heart would hurt a little less. Now the nights are darker, my life a little easier. And I have returned to the tribe from which I came. our granaries lush with words and lovelessness.
J'ai traduit aussi Jejuri de Arun Kolhatkar. Kolhatkar, c'est un poète qui était né en 1932 et qui est mort en 2004. Et c'est un poète du Maharashtra. Il écrit en marathi et en anglais. Et le recueil que j'ai traduit en français, Jejuri, a remporté le prix des auteurs du Commonwealth en 1977.
Roselyne Sibyl, pensez-vous qu'il faille être soi-même poète pour traduire de la poésie?
Je pense que oui. Je pense même que c'est important parce qu'il y a une logique à la langue poétique. Je ne parle pas de versification, je parle de la poésie de la langue. Mais pour traduire de la poésie, je pense qu'il faut rejoindre le poète d'origine dans sa poésie. Et ça, c'est une forme d'esprit ou de sensibilité qui est particulière.
Roselyne Sibyl, vous collaborez au magazine de poésie en ligne Terre à Ciel. Quel est votre rôle? Quel lien entretenez-vous avec l'équipe, pour le moins dispersée aux six coins de l'Hexagone?
J'ai commencé à collaborer à Terre à Ciel en 2011, à l'invitation de Cécile Guivarge, qui a créé la revue. Et je fais toujours partie de l'équipe. Pendant longtemps, j'ai fait partie du comité de sélection, qui recevait donc tous les poèmes et poètes qui souhaitaient publier. Depuis, Cécile a créé un autre groupe pour la sélection et moi, je continue à faire partie du comité de rédaction. On se rencontre, on essaye de se rencontrer de temps en temps, mais il y a le téléphone et les mails et ça fonctionne très bien. Chacun sait ce qu'il doit faire, tout le monde travaille dans le but que la revue soit la plus complète et variée possible pour faire entendre les voix de la poésie contemporaine et c'est très intéressant.
Alors donc, un autre site à visiter, chers auditeurs, le site de Terre à Ciel, mais pour ceux qui suivent l'émission depuis un certain temps, vous avez pu entendre Cécile Guivarge sur les ondes de Radio Agora et elle vous a déjà parlé de Terre à Ciel. Vous écoutez D'assonances en dissonances. Ce soir, je m'entretiens avec Roselyne Sibyl, poète, voyageuse, traductrice. Et je vous cite. Ta vie qui a traversé la mienne comme une comète me laisse tant de lumière que je pourrais avancer dans le noir de ton absence. Par cette citation, j'aimerais aborder maintenant un livre qui m'a beaucoup touchée, encore plus qu'Ombre Monde, parce que la perte d'un père semble inéluctable et logique, alors que la mort d'un enfant avant le décès de ses parents nous révolte et nous accable. Ce livre a pour titre « Entre les braises ». Il est paru aux éditions de la Boucherie littéraire dirigée par Antoine Gallardeau, et nous le saluons au passage. Dans ce livre, il n'est pas tellement question de mort, c'est plutôt du ressenti d'être cisaillé, d'être troué. C'est plus une expérience physique à dire. Et s'il n'est pas indécent ou indiscret de vous poser la question, comment écrit-on un livre comme celui-là? Où trouve-t-on les mots qui puissent encore avoir un sens?
Pour vous répondre, je vais vous lire la postface de ce recueil qui s'appelle « Origine ». Avant le coup de téléphone qui m'a foudroyé et dont la sonnerie beaucoup trop tôt le matin me strie encore, il y avait écrire. Mon écriture d'enfance était comme danser une fête légère. Adulte, j'écrivais toujours dans les moments forts, explosant de cette vie qui me donnait, à profusion. Écrire était fixer ce bonheur vertige. Les marées basses, les nuits noires, les effondrements, je les vivais en dedans. J'érigeais seul mes barrages contre le Pacifique. L'écriture m'accompagne. S'était endurcie avec les années. Elle s'aventurait peu à peu dans les périls de mes gouffres fondamentaux. Nous nous faisions confiance, nous nous tenions fort par la main. Elle disait ce que je sentais. Je reconnaissais ce qu'elle osait. Nous en étions là lorsque la mort a englouti d'une seule vague folle mon fils, mon élan, mon souffle, mes mots. L'écriture est alors devenue une étrangère, sans complicité, sans connivence. Je la voyais de loin, bavarde, indécente, inappropriée, ne pouvant saisir aucun des remous hallucinés de mon chaos. Je l'aurais voulu là et je la repoussais. Je n'avais plus que quelques centimètres devant chacun de mes pas. Écrire, impossible. Il me fallait survivre. Aspirer un peu d'air à travers la douleur. Tenir ma raison avec mes deux mains. Apprendre, apprendre, inventer comment continuer à vivre. Écrire était trop loin, trop lent, trop vague. Mais l'écriture, ma compagne d'autrefois, autrefois c'était seulement le jour d'avant le cri, était restée imprimée comme ces formes de lumière qui jouent dans les paupières closes. Écrire, un mystère inaccessible. Écrire n'était plus pour moi. Pourtant, cette nostalgie était lourde. Je me cabrais entre désir et refus. J'étais seule sans elle. J'implosais. J'aurais voulu hurler en mots le cri impossible, la lame de la hache. Alors j'ai juste pris un stylo, sans espoir, sans attente, blessée pour toujours. J'ai posé cette pointe dérisoire sur du papier et je n'ai rien cherché. J'ai vu mes doigts tenter. J'ai accompagné leur vouloir. Les mots apparaissaient sans moi. L'écriture hissait ce qu'elle pouvait hors du magma. Et moi, je relisais. Et, oui, j'entendais. Ce n'était pas tout à fait juste, bien sûr. Elle posait des mots trop sages, maladroits. Mais ils étaient là. Ils reculaient parfois d'un coup, calcinés. Ils revenaient en approche de Sylvie Bratil. Ils étaient là autour de moi, et moi je n'étais pas souvent disponible pour eux. Je m'appliquais à marcher sur la crête entre la mort de mon fils aîné, qui m'aimantait, et ma vie, coriace, choisie, tissée d'heures qui s'enchaînent et d'amour. Sans espace pour me regarder vivre. Des mots se sont posés dans le cahier, des phrases que je ne relisais pas, un peu de terreau. Parfois, à l'intérieur des mains, je sentais l'élan, timide autant que péremptoire, comme une source qui se veut, qui hésite, qui frémit, un balbutiement du cœur. L'écriture peut-être, ma compagne peut-être. Dans les chevaux enchevêtrés, il me semblait reconnaître un fil, juste un fil qui voulait traverser l'atroce enraciné dans la mémoire. La colère, la détresse des nuits interminables, la colonne vertébrale disparue, la tristesse sans fin, la pensée de l'irrécupérable lien, l'envie de lâcher, de laisser glisser jusqu'à plus rien. L'écriture comme un fil de vie. Celle qui m'a dit « Garde le regard sur moi pour passer au-delà de toi ». L'écriture peut-être, ma compagne. Et je savais, je sais, quelle gravité elle porte et que si elle s'envole, c'est qu'elle saute le feu.
Merci beaucoup. Et effectivement, on ne peut pas dire mieux que ce que vous venez de lire et qui est donc, comme vous l'avez précisé, la postface en quelque sorte du livre « Entre les braises », édité aux éditions de la Boucherie littéraire. Dans ma présentation, je disais que vous étiez plasticienne à vos heures. Mais c'est peut-être plus que ça, en fait. Vous avez exposé. Florence Saint-Roch et Jeanne Bastide, donc toutes deux poètes, ont écrit sur vos encres. Pour le dire autrement, est-ce que la pratique du collage, de l'encre, qui est la vôtre, est encore un mouvement d'écriture. Et vous avez créé des encres pour les poèmes de Ludivine Joanneau.
quand j'étais en Corée pour la seconde résidence d'écriture en 2011, c'était la mousson. Alors qu'en 2009, j'y étais allée à l'automne et c'était un anticyclone magnifique qui a fait que pendant un mois et demi, il n'a pas plu du tout. Là, c'était l'été 2011, il pleuvait énormément, donc je ne pouvais pas marcher dans cette vallée comme je l'avais fait la première fois. Et on n'écrit pas de la poésie attelée à sa table toute la journée. Et en fait, un jour, je suis allée dans un grand magasin à la ville proche et je suis allée dans le rayon papeterie parce que j'aime toujours les merveilles papetières. Et j'ai découvert un papier de riz très fin qui sert aux enfants à faire leur brouillon de calligraphie, l'équivalent de nos cahiers de brouillon, un papier très léger, très peu cher. Et j'ai acheté des rouleaux et j'ai acheté aussi des feutres calligraphiques de plusieurs couleurs, et de l'encre de Chine. Et en rentrant, j'ai commencé à créer ce que j'ai appelé des poèmes graphiques, c'est-à-dire j'ai exploité les qualités de ce papier, qui est un papier étonnant, qui se déchire très facilement quand il est mouillé, et en même temps, l'encre ne fuse pas dans la trame du papier. C'est très intéressant pour la calligraphie. Et j'ai petit à petit découvert comment me servir de ce papier pour faire des formes que je déchirais et recollais sur des supports. Et dans ces graphismes, on pourrait dire, j'ai ajouté des mots de poèmes que j'inventais, comme dans les peintures anciennes, les peintures chinoises ou coréennes anciennes, le poème était à l'intérieur de l'œuvre. Et Sylvie de Paris, qui, elle, est plasticienne, alors que moi, je suis totalement autodidacte, m'a encouragée avec son regard. Et cet ensemble a été exposé au centre culturel où nous étions en résidence. Et puis, en 2018, j'étais invitée au Salon du livre d'artiste de Rives, dans l'Isère. Et on m'a demandé d'exposer derrière mon stand, sur les grilles derrière, quelque chose qui ne soit pas de livre d'artiste. Et donc, je me suis demandé quoi exposer, et je me suis dit, mais il y a ce petit triptyque que j'avais fait en rentrant, et je l'ai exposé. Et de là, ça m'a donné envie de reprendre, et ensuite, c'est devenu une activité créative qui m'a beaucoup occupée, entre autres pendant le confinement, et je me suis régalé absolument à découvrir toutes les possibilités de ce papier. Depuis, autant en Corée c'était abstrait, autant ce que j'ai fait depuis 2019 ici, ce sont mes paysages intérieurs, ce que j'appelle mes paysages intérieurs, c'est-à-dire que j'ai l'élan de faire un paysage avec des collages. Le support sur lequel je travaille, c'est un papier qui permet les repentirs. Un papier qui est un petit peu glacé, comme je travaille avec de la colle blanche, ça ne fait pas de traces malvenues. Et donc je fais des superpositions jusqu'à ce que j'arrive à avoir ce que je cherche. Effectivement, ce travail de papier et d'encre, qui n'est pas de l'écriture, est une autre forme d'écriture sans les mots. Je me rends compte en regardant mes encres que c'est exactement moi, comme quand j'écris. Et ça, c'était une découverte tout à fait intéressante parce que je ne suis pas plasticienne, comme je le disais. C'est une façon d'écrire qui est plus visuelle et très discrète. Et j'aime beaucoup les deux approches. J'aime beaucoup la langue, comme je vous l'ai dit, et j'aime beaucoup aussi écrire sans la langue.
Mais alors après, au niveau tactile, au niveau sensoriel, j'imagine que l'expérience n'est pas du tout la même.
C'est très intéressant. Je fais des collages avec beaucoup de superpositions, donc mes encres sont... si on passe le doigt, on sent le relief. Et ça, c'est très très étonnant d'écrire en 3D. Et autant l'écriture, c'est un art secondaire, et là, c'est une écriture plus directe, comme la musique est plus directe aussi.
ça m'ouvre et ça me permet de compléter ma façon de créer.
On a parlé des voyages, maintenant on aimerait bien entendre des textes écrits à partir ou pendant ces voyages.
C'est des petites notes en prose du récit de voyage de ma deuxième résidence d'écriture en Corée. Samedi 25 juin, c'est la mousson, il pleut beaucoup. Une pluie froide pour le moment, comme un automne. Les châtaigniers sont en fleurs, les rizières drues et les feuillages brillants, tout ruisselle. Les torrents cascadent sur les gros rochers de grès qui semblent des animaux mythiques au bain, courbant l'échine. La vallée est pelotonnée dans une vêture vert puissant. Tout est feuilles et lianes et mouillées. Nous sommes montés jusqu'à la petite maison chamanique sous ces arbres immenses. Les panneaux d'un arboretum ont été installés. Je vais pouvoir noter les noms. Il se mit à pleuvoir fort. Nous étions sous le rebord du toit, à l'abri, dans le vaste mouvement immobile de la nature, entre mots et silences pleins de sons, nous laissant imprégner de ce qui nourrira notre création commune. Un rapace roux est passé sous le couvert des arbres.
Merci beaucoup, Roselyne Sibyl. Hélas, trois fois hélas, le temps imparti à cette émission est écoulé. Mais avant de rendre l'antenne, je tiens à vous remercier très chaleureusement pour votre accueil, vos réponses. Et vous l'avez entendu, chers auditeurs, ces réponses témoignent d'une grande sensibilité, témoignent d'une vie certes pas toujours facile, mais bien remplie. Je suis certaine que les auditeurs auront été touchés par votre authenticité, par votre poésie, par votre personnalité. C'était D'assonances en dissonance. Je vous retrouve dans un mois, deuxième jeudi du mois à 20h, pour un nouvel épisode de notre parcours en poésie. Et d'ici là, chers auditeurs, portez-vous bien. Au revoir.
Au revoir.